Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Félix Fénéon, 1861-1944, était un drôle de critique d'art. Arpenteur d'idées nouvelles, traducteur de formes sensibles et plastiques naissantes, éditeur génial et redouté pour sa plume cruelle, Félix Fénéon a l'insolite talent de débusquer les plus grandes signatures du XXe siècle et d'offrir aux lecteurs les illuminations de Rimbaud, le Dédalis de James Joyce, Passeur des Néos de Seurat à Signac, jusqu'aux Fauves et les Arts lointains. Octave Mirbeau disait de lui, malgré son aspect volontairement froid, sa politique un peu raide, le dandysme spécial de ses manières réservées et hautaines, il a un cœur chaud et fidèle. Mais il ne le donne pas à tout le monde, car personne n'est moins banal que lui. La suite, tout de suite dans le documentaire que vous proposent Najma Bouakra et Julie Béressi dans l'univers de M. Félix Fénéon.
F.F. sur une page. Il est celui qui efface sa signature derrière lui et ne rend jamais hommage, mais révèle les formes nouvelles d'art tout autour de lui. Tant de poèmes, de toiles naissent dans le sillage de Félix Fénéon. Il s'évapore mais se trouve au creux d'un poème, nous laisse dans le désordre des illuminations de Rimbaud, se promène dans le tableau Le Temps d'harmonie de Paul Signac. Ah, le voici, une de ces figures fraternelles, goûtant l'amour et l'âge d'or retrouvé. Où se profile espiègle sur un panneau de Toulouse-Lautrec. Ce qui est sûr, c'est que Fénéon va chaque jour à son bureau du ministère de la guerre où il est employé. Le rêve de la tortue et de voler, ce n'est pas seulement que par l'état d'esprit que les fonctionnaires ressemblent aux tortues. Une de ses nouvelles en trois lignes, peut-être de sa plume, peut-être car il n'aime pas fonctionner. Il n'aimerait pas, Félix Fénéon, qu'on utilise à son égard trop de substantifs qui figent, disent, nomment l'état, la fonction, passeur, critique d'art et littéraire, collectionneur aux œuvres éparpillées. Non, ce serait le trahir, comme de chercher à débusquer dans ses liasses de bulletins d'art, de critiques et de correspondances, sa trace. À moins de suivre les motifs dessinés par sa baguette d'apprenti sorcier, les œuvres découvertes et choyées par ses mots précisément. Félix Fénéon, l'arpenteur des arts. Un documentaire de Najma Bouakra et Julie Béressi.
Il est très dandy, Félix Fénéon. Félix Fénéon a un souci de paraître qui est important. Déjà, il a un physique très particulier qui le rend remarquable. Et l'idée, c'est que ce physique très particulier qui le rend remarquable, il va le travailler pour être encore plus remarquable. Donc déjà, ça commence par cette barbiche absolument étonnante qui ne couvre que la partie inférieure du menton sous la lèvre et qui se prolonge comme un pinceau. C'est vraiment la barbiche Yankee aux États-Unis. On voit beaucoup de gens qui ont cette barbe-là. Donc voilà. Alors on le voit un peu dans certains tableaux, par exemple dans le célèbre Signac, où on le voit tendre cette fleur. On voit un peu quelle est sa mise déjà, la manière dont il est habillé, mais effectivement, on décrit assez souvent ses gants rouges, sa cravate rouge large, ses chaussures vernies, son Macfarlane, etc. Et il est vraiment très... il a une mise très étudiée, il a un look, en fait. Voilà, c'est un vrai dandy.
Quels sont les surnoms que vous avez pu croiser de Félix Fénéon ?
Oui, les surnoms, surtout au début de sa carrière. Enfin, pendant toute sa vie, il a signé tout simplement avec ses initiales FF, d'abord en majuscule, ensuite en minuscule. Mais les pseudonymes, quand il était jeune, il en a fait de très bizarres, comme Autocar Fénéon, Autocar et Fénéon avec un PH, non pas avec un F. Il a écrit Utagawa Fénéon. Utagawa, c'est deux syllabes d'un même artiste qui avait deux noms japonais qui représentaient des scènes plutôt érotiques.
Porphyre.
Oui.
Kalugwin.
Non, ça c'est, j'ai pas repéré ça.
Gilles de Bache, étrange.
Oui, c'est ça, oui. Non, il a plein de pseudonymes. Il écrit énormément sous pseudonymes, féminins ou masculins d'ailleurs. Alors qu'il va chercher, par exemple, la littérature antique ou dans l'histoire, hein, mais ils font tous ça. Il suit l'exemple de Mallarmé, qui est un de ses amis, les critiques de Mallarmé sur la mode, que Mallarmé signait d'un nom féminin.
Lui, c'est Agathe ou Louise. Ouais. Agathe, Louise, Thérèse.
Ouais. Oui, ils font tout ça. Apollinaire fait la même chose. Apollinaire signe des noms de féminins d'un certain nombre de ses tribunes. Pourquoi c'est un grand mystère, en fait.
Il a signé Élie Manéon. Élie, c'était un de ses propres prénoms. Mais Manéon, c'était peut-être inspiré de Manon. Enfin, il a signé surtout Porphyre. Ça m'a amusé parce que c'est le prénom du juge d'instruction de crime et châtiment. Pourquoi s'appeler du nom d'un juge? Parce que lui-même se trouvait un peu impliqué en tant que juge, en tant que critique d'art. Critique d'art et critique littéraire aussi.
Alors là, qu'est-ce que j'ai là? Arrivé à la gare d'Herblay, pourquoi est-ce que je vous ai sorti celui-là? Ah oui, non, ça c'est tout à fait autre chose, mais c'était parce que j'avais envie de vous montrer cette signature assez amusante, Monsieur Félix, qui revient à certains moments. J'ai même trouvé une lettre où il barrait rageusement de plein de petits FF le fond de la lettre. Je ne sais plus où elle est. Ça fait partie des petites fantaisies qu'on trouve dans l'écriture de Fénéon, comme celle-ci par exemple, qui est un poème. Sans que ton pas soit infléchi par le corset ou le cognac, va, poste, avenue de Clichy au numéro 20, où niche, zi, burinant une besogne active, le peintre Paul Signac. Les rimes sont un petit peu bancales. Il y a toujours des petites fantaisies, des petites blagues, des signatures amusantes, des gribouillis.
Durant la période impressionniste, la foule vit toujours au premier plan Manet, provoquant les colères, forçant les entrées des salons, élastique et théâtral. Il ne faudrait pas oublier Camille Pissarro, Monet et surtout Degas, dont il retient dans une langue inventive et plastique le mouvement. Des femmes emplissent de leur accroupissement cucurbitant la coque des tubes. L'une le menton à la poitrine sera planuque, l'autre en une torsion qui la fait virante, le bras collé au dos d'une éponge qui mousse se travaille les régions coquigiennes. Une anguleuse échine se tend. S'abattent une chevelure sur des épaules, un buste sur des hanches, un ventre sur des cuisses, des membres sur leurs jointures, et cette Marie-Jorne, vue du plafond, debout, devant son lit, main plaquée aux fesses, semble une série de cylindres, renflés un peu, qui s'emboîtent. Jamais tableaux n'ont moins évoqué la pénible image du modèle qui pose. Salon des impressionnistes, 1886. Félix, Fénéon est le fidèle ami, plus qu'un critique, l'agent de liaison entre les mots, les couleurs, le nouvel agencement d'un art follement vivant. Qui aperçoit-on de profil ?
Il s'agit d'un portrait de Fénéon par Signac.
Isabelle Kahn, conservateur en chef des peintures au musée d'Orsay.
Il est de profil contre son gré. Parce que dans une lettre qu'il écrit à Signac, au moment où Signac lui dit « Voilà, j'ai envie de faire votre portrait », Fénéon lui répond « Oui, d'accord, mais alors surtout de face ». Et voilà, le résultat, il est de profil. Et c'est un profil qui permet peut-être de prendre de la distance aussi avec ce que le visage de Fénéon pouvait dégager. Là, on est dans une épure, une sorte de profil en médaille. Et on voit que ce que Fénéon dégage surtout, c'est une énorme énergie. C'est un magicien, la fleur qu'il tient à la main, au fond, c'est une baguette magique. Et c'est la baguette magique, c'est la palette magique, presque. Alors, il est magicien parce qu'il va faire le lien entre des domaines qui, a priori, n'ont pas de lien entre eux. Donc, c'est lui qui va créer une forme de nouveau récit, aussi, autour des expressions de son temps. Il révèle, il va nous révéler, de même que les peintres nous révèlent des spectres de couleurs, peut-être qu'un œil normal a du mal à voir. Félix Fénéon va être celui qui va accorder de l'importance aussi à certaines formes de création en devenir. Alors, toutes les couleurs de la palette sont présentes. Il y a des bleus, il y a des rouges, des orangés, des jaunes. Toutes ces couleurs sont imbriquées. Elles sont aussi très vibrantes. Et Signac va utiliser comme support pour cet éclatement des couleurs sur la toile un modèle de kakémono. d'estampes japonaises. Donc les estampes japonaises sont très importantes parce qu'elles fournissent aussi des modèles assez audacieux d'utilisation de la couleur sur lesquels plusieurs générations d'artistes vont s'appuyer pour se libérer justement des demi-teintes, pour se libérer des mélanges faits sur la palette avant d'être appliqués sur la toile.
Juste dans mon dos, je vois une esquisse.
C'est l'esquisse que Signac a réalisée avant de peindre le fameux portrait, ce fameux portrait de Félix Fénéon sur un fond rythmique.
Charlotte Hellman, archive, Paul Signac.
Il a d'abord réalisé cette esquisse sur bois, un jaune citron qui se retrouvera sur la toile en grande majorité. Le jaune tient une grande place. Je pense que le jaune était une couleur qu'ils affectionnaient particulièrement tous les deux. La couleur a été au centre de leur combat, puisque Fénéon a très vite pris le parti du néo-impressionnisme. C'est lui qui a inventé le nom, qui était fondé sur la théorie des couleurs pures. Donc tout ça est assez codé finalement entre eux, et c'est un portrait codé entre deux, un clin d'œil, et puis c'est aussi une sorte de manifeste, presque un manifeste commun.
Philippe Pelletier, responsable de l'unité Océanie-Insulinde au musée du Quai Branly.
Fénéon a une vie tout à fait extraordinaire. C'est quelqu'un qui, entre les années 1880 jusqu'à à peu près les années 1930-1940, va avoir un radar absolu sur les jeunes auteurs et les jeunes peintres. Il a une façon de repérer les gens qui est absolument incroyable. Enfin, il a traversé ou découvert quatre générations de créateurs entre 1880 et 1930. Il est quelqu'un qui va construire une collection absolument extraordinaire. On pense que la collection faisait plus de 1300 pièces.
Félix Fénéon, FF, a hésité à penser à un moment donné offrir sa collection à l'Union soviétique, et puis il se ravise.
Oui, on dit qu'il avait fait un testament pour donner absolument toute sa collection à la Russie après la Révolution. Fénéon, il va être proche du PC, il lit l'Humanité. Et en 36, quand Léon Blum, dont il a été l'un des premiers éditeurs, puisque Léon Blum est un des grands critiques de la Revue Blanche, donc c'est un monsieur qu'il connaît très très bien. Quand Léon Blum gagne les élections, il monte sur le 10 avenue de l'Opéra où il habite et il plante un drapeau rouge. C'est un beau manifeste. Attention, il a plus de 70 ans quand il fait ça. Il a presque 80 ans quand il fait ça. Et puis, il y a les massacres anarchistes en Russie. Là, il est fou de rage. Il prend son testament et le déchire. Fin du don à la Russie. Et cette collection est dispersée à sa mort. Après sa mort, c'est sa femme qui demande la dispersion de la collection. En 1947, en 5 ventes à l'hôtel Drouot, et les tableaux seront dispersés à travers le monde.
Félix Fénéon, on le croise partout. Quand on travaille sur la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, on le croise dans tous les domaines. Mais c'est comme une sorte de fantôme, de personnage qui se définit un petit peu en creux. C'est quelqu'un qui est d'abord présent par son écriture, parce que finalement, ce qui est venu jusqu'à nous, ce sont ses écrits, ses critiques surtout. Donc Fénéon est quelqu'un qui écrit sur l'impressionnisme, sur le post-impressionnisme. On le croit surtout dans des ateliers au départ, parce que ce qu'il caractérise, c'est son amour des artistes, son amour de l'art. Donc il est proche des créateurs. Je pense que dans l'atelier, il vient un petit peu chercher les secrets de l'atelier. Et on voit à quel point il va creuser cette question du pointillisme, des théories scientifiques de la couleur. Il se renseigne beaucoup. Alors il n'ose pas trop approcher Seurat, qui est un petit peu quelqu'un qui consacre tout son temps au travail, donc il a peur de le déranger. Et il va plutôt voir Signac, qui lui est au contraire quelqu'un de très très affable. Il lui demande « mais quelles sont les recettes du pointillisme ?» Et en même temps, on voit bien que cette méthode va aussi l'aider, lui, à trouver une méthode pour son écriture, qu'il veut objective et il veut se placer à distance. Donc au fond, cette méthode qu'il va décortiquer, qui n'est pas tout à fait ce qui se passe vraiment dans l'atelier, c'est plutôt aussi sa démarche, l'idée de sa démarche.
Jamais il ne pontifie, Félix Fénéon.
Non, c'est tout ce qu'il détestait, je pense, c'est ce qu'il essaie de fuir, et puis il essaie aussi de reconstruire quelque chose de plus libre, mais tout en gardant une certaine distance. Son idée n'est pas d'être celui qui, au contraire, son idée c'est « je suis derrière une pensée ». Et cette pensée, on ne l'attrape pas d'un coup. Il faut beaucoup travailler, il faut aller dans plein de domaines différents. Et plus on creuse, et plus le domaine, justement, s'élargit. Donc Fénéon, c'est aussi comme une sorte de mirage. C'est ce portrait en creux qui nous arrive aussi par le regard des autres. Et c'est cette personnalité à la fois froide et passionnée qui nous entraîne dans beaucoup de domaines différents.
Félix Fénéon se promène sur les quais les jours de travail, à Asnières, dans les ateliers, les galeries. Et là, il découvre de mystérieuses statues venues d'Afrique, des sculptures en bois, aux coupes tranchées, ce que l'on nomme alors l'art nègre. Le bulletin de la vie artistique de 1925, édité par ses soins, refuse le terme. L'art nègre, un mot scandaleux.
Absolument, c'est la première phrase du bulletin de la vie artistique de 1925. Fénéon a toujours été... C'est un anarchiste. Quand il est à la Revue Blanche à la fin du XIXe siècle, qui est une des grandes revues d'avant-garde de l'époque, où il va publier tout ce qu'il a compté dans la littérature de ce temps-là, il prend déjà des positions très anticolonialistes. Il prend des positions vis-à-vis de la défense des gens. Et il commence à se rendre compte que le mot nègre est un mot dérogatif. C'est un mot qui est très employé à l'époque. Il est employé par toute la critique, en fait, pour désigner à la fois les arts d'Afrique et les arts d'Océanie. Mais il est entaché de toute une histoire qui est très, très longue et liée, par exemple, à l'esclavage ou au racisme. Donc, Fénéon va utiliser le mot art lointain. C'est un mot qui ne s'est pas imposé, si vous voulez. Il a dit aussi... ils ont utilisé, je crois, dans cet article, le mot « art premier ». Donc, ils vont chercher un mot sans le trouver.
Des œuvres qu'on a du mal à désigner, tant elles sont diverses aussi, pour une part. C'est difficile de donner un mot, non, un dénominateur commun pour des œuvres qui viennent de si loin, mais de lieux si différents. Là, on est quand même dans un courant anticolonial. Indigène, art indigène, ce serait trop lâche. Exotique, trop louche.
Oui, tous ces mots ne... Exotique, c'est un mot qui renvoie à tout un imaginaire, qui est celui de l'Europe et qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Donc le mot est difficile à employer. Indigène aussi, il ramène les gens à une situation... ou un État que les anarchistes ne veulent pas, puisqu'ils veulent qu'au contraire, les populations de ces pays aient accès au progrès, aient accès à la modernité, en fait, ce qui va faire la modernité. Donc c'est pas un mot qui convient. Et c'est vrai qu'on est resté sans mot. Art lointain, c'est un mot qui n'a pas de jugement, qui dit simplement « c'est autre ». Un mot qui dit simplement que c'est à l'extérieur de vous et loin de vous et qu'il faut faire un effort pour y arriver.
Il est de toutes les revues, L'En Dehors, La Libre Revue, et on peut dire qu'il est la revue blanche, son esprit, sa plume, rescousse et son trait d'esprit. Difficile de faire sortir Fénéon de son maquis de mots.
C'est un peu par hasard que je l'ai rencontré grâce à ces nouvelles entrevues et grâce au livre de Jean Paulhan. Il savait que Fénéon n'avait pas signé beaucoup de ses articles et donc m'a invité à chercher. Jean Paulhan lui-même a été un peu étonné du fait que je découvrais de plus en plus d'écrits de Fénéon.
Joanne Halperin, pendant 50 ans, le poursuit dans les milliers de pages des revues anarchistes, composant art et révolution dans une même ligne radicale. Mots art gothique, symboliste, composition arbitraire et osée, joie potache et engagement sans contrefaçon.
à la revue Blanche, il a fait une enquête, il a fait interviewer pas mal de gens qui avaient vécu l'année terrible de la Commune. Il n'avait que 10 ans lors de la Commune et la répression de la Commune, mais ça a sans doute beaucoup marqué. Mais les écrits de Bakounine, de Kropotkin, de Proudhon même, le français, étaient très, très lus. Et surtout, c'est la situation du prolétariat qui touchait sa sensibilité intellectuelle et sa personnalité. Je ne sais pas comment, mais tous ces amis que j'ai interviewés, plus de 20 personnes l'ayant connu, et les gens du prolétariat s'approchaient de lui le jour où il recevait sa paix, et il distribuait, comme on disait, en marchant sans regarder ceux à qui il donnait son argent. Il devait les rencontrer dans les cafés, dans la rue. Il était très, très sensible aux gens et à la situation des ouvriers. Comme d'ailleurs son aîné, le peintre Camille Pissarro, était associé ouvertement, comme fainéant, au mouvement anarchiste. Dans les revues anarchistes de l'époque, dès qu'il y a eu des arrestations dans les années vers 93-94, dans les revues anarchistes, on voyait les petits dons, les listes de personnes qui donnaient des sous, des francs pour aider les familles des détenus. Et on voit parmi beaucoup d'ouvriers des noms d'intellectuels comme Fénion et les noms d'artistes comme Pissarro qui donnaient 500 ou moins même, mais régulièrement, pour faire vivre, pour faire manger la femme et les enfants des détenus, des ouvriers. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas moyen de survivre le moment des grèves, le moment où les ouvriers étaient sans travail. Donc il fallait évidemment s'entraider.
Il connaît tout le monde, puis Fénéon, c'est absolument incroyable, quoi. C'est un bottin ambulant, il y a personne qui rate, enfin bon. Donc je pense qu'il commence à collectionner très très tôt. C'est très difficile de dire ce qu'il a perçu de nouveau et dans ses œuvres. On est à un moment donné où la peinture ne va plus suivre la réalité, et c'est ça qu'il découvre aussi chez Seurat. Ce qui l'intéresse chez Seurat, c'est le système de peinture qui rend compte de la réalité. Et c'est l'application, en fait, de lois émises par les scientifiques sur la couleur et sur la forme. Blanc et tous ces gens-là. D'accord? Et donc, tout d'un coup, l'art n'est plus, comme chez les impressionnistes, il n'est plus sur quelque chose qui est de l'imitation, mais quelque chose qui est de l'ordre du transfert vers un monde qui est celui de la peinture même, comment la peinture se constitue elle-même. C'est aussi ce qui est nouveau dans les arts lointains, c'est le fait que ces gens traduisent le corps à partir de formes géométriques. C'est-à-dire, ça n'a plus aucun rapport avec votre corps réel. Ça devient des rectangles, ça devient des triangles, ça devient des cubes, ça devient des parallélépipèdes, des formes géométriques. Et c'est ça qui va intéresser les artistes, au fond. C'est que, déjà, la grande découverte, c'est que les Africains, ils sont passés à travers un système de formes pour rendre compte de la réalité du corps humain. C'est ce qui les intéresse, c'est le corps humain, c'est la représentation des esprits, des dieux, etc., etc. Et ça, pour les gens du XXe siècle, c'est probablement très étonnant. C'est un art qui a une utilité, c'est un art qui a une fonction sociale. Comme d'ailleurs, l'art néo-impressionniste et l'art de la fin du XIXe siècle voulaient avoir une fonction sociale. Si Fénéon découvre des gens comme Bonnard et Villard, c'est pas par hasard, c'est des gens qui veulent refaire le décor, redonner un nouveau décor dans lequel vivre. Hein. Et c'est des gens qui sont à cette époque-là, dans les années 1890, quand Fénéon les promeut, en fait, à travers la Revue Blanche, c'est des gens qui s'intéressent au théâtre aussi. Et c'est un théâtre engagé. Et donc, ont aussi une fonction sociale. Et je pense que Fénéon l'a compris, ça, sur les arts d'Afrique. À la fois la fonction sociale de l'art d'Afrique et à la fois l'abstraction que représente une sculpture africaine par rapport à la réalité.
Alors, si on s'approche d'une des premières révélations de Félix Fénéon, ce serait quel tableau de ses trouvailles ?
C'est ce rat qui est vraiment l'artiste qui va lui faire prendre conscience de la naissance d'une nouvelle peinture. À l'époque où Fénéon découvre ce rat, il est surtout intéressé par la littérature, par le symbolisme en littérature. Et quand il découvre en 1884 son premier tableau de ce rat, qui est une baignade à Asnières, là il a un moment de fascination. Et dans ses premiers écrits, ce rat apparaît très tôt comme un artiste prometteur.
Alors, si on ferme les yeux et qu'on regarde ce tableau, est-ce qu'on peut le regarder avec les yeux de Félix Fénéon ?
C'est difficile parce que nous, on connaît la suite, donc il est difficile de regarder le tableau avec les yeux de Fénéon. Mais en tout cas, on voit qu'il a une forme de sidération. Alors on essaie de comprendre pourquoi ce tableau. Les couleurs sont vives, mais ce qui frappe aussi, d'abord c'est la taille du tableau. On a un tableau très très grand, de grand comme un décor. Et on voit bien que ce tableau, au fond, a quelque chose de classique. Il s'agit d'un baigneur assis sur une rive au bord de la Seine. Mais toutes les formes sont exprimées d'une manière assez synthétique. Et au fond, c'est une restitution grandeur nature, voire un petit peu plus même, d'une scène observé probablement, mais complètement recomposé, repensé aussi, presque en fonction d'un nombre d'or. On a l'impression qu'il y a une composition très très pensée, et à la fois des petits détails qui retiennent l'attention. Regardez ce baigneur avec ce petit bonnet sur la tête, lui aussi il introduit une tache de couleur dans l'eau. Et tout est lu comme ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de trame entre réalité, pensée, nécessité picturale, esthétique, qui construit, au fond, cette nouvelle peinture. Et je pense que c'est ça qui a dû attirer Fénéon, c'est la dimension symbolique du sujet. Et il s'intéresse à cette expression de la pensée, du rêve, de l'imaginaire, comme Gauguin aussi va pouvoir le développer un petit peu plus tard dans son travail, et aussi d'une manière un petit peu contemporaine. On est dans ses recherches pour échapper à la sensibilité terre-à-terre des impressionnistes.
Et cette idée de pouvoir objectiver comme ça une sorte de nouvelle forme sensible, une nouvelle sensibilité, c'est un nouvel espoir ?
C'est une nouvelle forme d'expression après justement après l'impressionnisme qui lui était davantage centré sur les sensations, sur l'immédiat, sur la subjectivité. C'est normal, une nouvelle génération arrive, va prendre le contre-pied de cet art, va s'affirmer au contraire dans un désir d'objectivité et également de communication à travers cette objectivité.
Paul Signac est séduit par les paysages suburbains. Ses toiles sont peintes par une division de tons. Elles atteignent une frénétique intensité de lumière. Les gazomètres à Clichy et le passage du Pubertin avec ses palissades où sèchent des pantalons de travail et des bourgerons. La désolation des murs écorchés, son herbe roussie et son toit en incandescence dans une atmosphère qui s'affirme, se fonce en montant et se creuse en un gouffre d'aveuglant bleu. Voici les quelques mots de Félix Fénéon pris comme sur le vif lors d'une exposition impressionniste, la 8e du Salon des impressionnistes.
Il prend sa plume et il fait le compte-rendu des tableaux qu'il voit et qu'il va décrire non pas d'une manière tout à fait non plus objective, mais aussi à sa façon, en nous restituant de nouvelles images, parce qu'il faut que cette critique soit imagée. À l'époque, il n'y a pas de reproduction. Donc il faut faire sentir aussi le sujet. Et parfois, Fénéon aussi va assez loin dans la description de certains éléments de la composition. Et c'est ce qui fait toute la saveur de ces critiques, c'est se précipiter entre les mots et les images.
Comme par exemple Grand Camp 1885, Georges Seurat. Qu'est-ce qu'il note ?
De l'abrupt littoral de Grand-Camp, qui suit la ligne inférieure du cadre, le petit promontoire du Bec de Hoc se hausse hargneusement sur la mer calme et triste. Donc ici, on a vraiment l'impression de rentrer dans le tableau pour ressentir ces impressions de littoral sous des lumières nuancées. Et qui donne parfois des impressions de tristesse, et en même temps l'idée de ce rocher qui forme un bec, donc qui évoque aussi un petit peu l'agressivité d'un oiseau, ou en tout cas un côté très abrupt face à la mer, qui elle est très souvent, en tout cas dans, sur le tableau, là, assez étale. Fénéon le rend en un seul adjectif, qui est « hargneusement ». Et ça fonctionne très bien, parce qu'il y a aussi cette sonorité comme une morsure.
Il avait le flair de trouver l'insolite, l'unique, le nouveau surtout. Il cherchait ce qui lui plaisait, c'était quelque chose de novateur. C'est un nom, c'est un mot qui revient souvent sous sa plume.
On a l'impression qu'il arpente des relations un peu enfouies entre les mots, les choses, les couleurs, l'esprit. C'est un homme qui est disponible à l'inédit.
L'inédit, oui, surtout, mais oui.
Oui, dans un pré dont le confin se marque d'un rang d'arbres plumuleux, une femme bleue et un enfant cachou adossé à l'ellipsoïdal tas se décolore. Là, c'est Sera.
Oui. Aussi, il utilise très souvent le verbe réfléchir, se décolore, pour figer un peu l'idée. C'est une espèce de, non pas la voix passive, mais une voix entre la voix active et passive, pour parce que la langue, n'est-ce pas, normalement, fait une narration et avance dans le temps. Alors, comment figer la langue pour qu'elle représente une image visuelle?
Joan Appelrin, comment faisiez-vous pour détecter la langue de Félix Fénéon et pouvoir dire ce texte-là, c'est celui de Félix Fénéon, parce qu'il ne signait pas tous ses articles ou tous ses écrits?
C'est d'abord par son style, qui est un peu particulier. Et en plus, par son sens d'humour un peu ironique, enfin très ironique, et le sujet, la façon dont il attaquait le sujet. Très souvent avec une critique sociale.
Philippe Auriol, auteur, éditeur. Si on pense à l'écriture de Fénéon, elle mute, elle est un peu mutante, elle évolue. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres auteurs? Parce que, par exemple, que ce soit dans certaines revues anarchistes ou symbolistes, on peut retrouver des écritures un peu proches, comme celle de Paul Adam ou d'autres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver?
Ouais, alors ça c'est un problème. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des tics d'écriture à ce moment-là, et si Paul Adam, sous le pseudonyme de Plowert, décide de sortir un petit glossaire en donnant le vocabulaire symboliste et décadent, c'est pas par hasard. Et on a vraiment le sentiment parfois d'avoir des textes qui ont été faits sur la base de ce petit glossaire. C'est-à-dire que la langue de Paul Adam est très proche de celle de Jean Moréas, qui est très proche de celle de Fénéon, etc., etc. Donc comment on fait pour s'y retrouver? Ben en fait on s'y retrouve pas, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est tout à fait parfait. Et on arrive à s'y retrouver grâce à des correspondances, à des choses comme ça. Mais sinon il y a des moments, et c'est vrai que là, nous on s'amuse sur certains textes à s'interroger, ça ressemble à du Fénéon, mais en fait cette phrase, ça ressemble à du Fénéon, n'a aucun sens, parce que ça ressemble à du Fénéon, mais ça ressemble à tellement d'autres gens à cette époque-là. Voilà, la moindre jeune fille est néphélibate, se promène sur des grèves avec une chevelure qui est coruscante et adamantine, etc., etc. Donc il y a un jeu du vocabulaire avec une démarche très malarméenne de redonner son sens aux mots de la tribu, etc. Donc on va dans l'étymologie. On néologise autant qu'on peut, etc. Donc il y a cette réalité-là.
Qu'est-ce qui est saisissant dans les nouvelles en trois lignes?
Presque tout, en fait. Déjà, moi, ce que je trouve saisissant, pour commencer, c'est presque le parti pris, pour parler par anachronisme, oulipien. C'est-à-dire d'avoir une vraie contrainte d'écriture, qui est de tenir les trois lignes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'écriture elle-même dans son efficacité, sa rapidité, le côté haïku, quoi, qui est vraiment assez étonnant. Et puis après, c'est l'humour, parce qu'il y a effectivement des... c'est vraiment très, très drôle, quoi. Or, pas toujours. Et en plus, c'est très très drôle, avec un humour très noir. C'est très très drôle, avec des choses qui ne sont pas censées nous faire rire. Mais voilà, il y a quelques gens écrasés par des trains qui deviennent éminemment rigolos, en fait, quand on lit les nouvelles entre lignes. Alors, elles ne sont pas toutes bonnes, hein, à côté de ça. Il y en a beaucoup qui sont... voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quelques chefs-d'œuvre.
Donc, les nouvelles en trois lignes choisies par Philippe Auriol.
Chez un cabaretier de Versailles, l'ex-ecclésiastique Rousselot trouva dans sa 11e absinthe la crise de délirium qui l'emporta.
Vous êtes sûr que c'est Félix Fénéon ?
Non. Non, on n'est pas sûr que ce soit Félix Fénéon. Et on ne pourra jamais le savoir, en fait. Et c'est ça qui est amusant. Alors, on va partir du principe que toutes les nouvelles en trois lignes sont de Félix Fénéon. Mais ça, on ne le saura jamais.
Le 11 mai 1892, éclate une bombe au domicile du juge qui a présidé le procès des anarchistes de Clichy. Le 18, deuxième bombe à la caserne Lobo. Le 27, troisième bombe au domicile de l'avocat général qui a requis la peine capitale contre les anarchistes. La police multiplie les arrestations et prend dans ses filets un certain Ravachol. En même temps, elle ouvre un dossier sur Félix Fénéon, dont les propos et les activités font l'objet d'une surveillance spéciale.
À deux pas d'ici se trouve le Sénat et puis le bus 58.
L'arrêt du bus 58 est toujours devant le Sénat. Et je me suis fait la réflexion l'autre jour en passant devant que le restaurant Foyot, dans lequel supposément Fénéon aurait posé cette bombe dans un pot de fleurs, sur le balcon me semble-t-il, se situait exactement à cet endroit-là. Et si je me souviens bien, John Halperin raconte que Félix Fénéon aurait entendu l'explosion une fois que le bus aurait franchi le boulevard Saint-Germain de l'autre côté, et je me suis aperçue que tout ça n'avait pas tellement changé.
J'ai réfléchi pendant de très longues années et j'ai conclu qu'il avait lui-même posé la bombe du restaurant Froyot. Beaucoup de lecteurs, surtout les lecteurs anarchistes, se sont opposés à ma supposition, surtout la façon dont je l'ai faite, parce que je l'ai un peu romancée en la mettant au début de la biographie pour attirer l'attention du lecteur, comme Fénéon était totalement inconnu, méconnu, inconnu. Mais oui, il y a non simplement le fait qu'il ait dit au moins à une personne qu'il a rapporté, notamment la femme d'Alexandre Cohen, lui-même anarchiste, sa femme Kaya, elle aussi. C'est à elle que Fénéon a dit qu'il avait posé cette bombe. Mais il y a pas mal d'autres indices. Et je réfère toute personne qui dispute cette idée à regarder les derniers écrits du grand maître de l'anarchisme, Jean Maitron. Il ne parle pas de Fénéon, mais il réfute de façon très logique les autres suppositions qu'on fait sur d'autres suspects. Et pour moi, l'évidence circonstancielle, le fait qu'il était un ami très proche d'Émile Henry, qui venait d'être arrêté. Moi-même, après pas mal d'années de réflexion, je suis convaincue que... Enfin, convaincue. Je suppose avec pas mal d'évidence qu'il a posé la bombe du restaurant Foyot. Et ce n'est pas... Les gens ont trouvé que parce qu'il était si délicat, si poli, si généreux, que ce n'est pas dans son caractère d'aller jusqu'au fait d'agir. Mais moi-même, au contraire, je trouve que la qualité de son caractère, ce n'était pas simplement de laisser aux autres l'acte du propagande par le fait, mais d'avoir le courage de le faire soi-même et de le faire intelligemment, c'est-à-dire de ne pas se laisser prendre.
La propagande par les faits, qu'est-ce que c'est la propagande par les faits ?
Alors la propagande par le fait, c'est une décision que, au début des années 80, un certain nombre d'anarchistes ont pris. Elle va de pair avec une autre idée, un autre concept qui s'appelle la reprise individuelle. Donc la reprise individuelle, parce que ça va vraiment ensemble, c'est le fait de récupérer ce qui nous appartient et qui nous a été pris. Donc ça veut dire que aller voler ce qui est chez un bourgeois ne pose aucun problème en soi, puisque de toute façon ça ne lui appartient pas. Et la propagande par le fait, c'est l'idée selon laquelle, pour faire avancer l'idéal anarchiste, il n'y a qu'un moyen, c'est la violence. Et cette violence, essentiellement grâce au progrès de la chimie, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'une petite bombe fonctionnait. D'ailleurs, c'est très intéressant, et d'ailleurs ça pose aussi des questions sur les attributions de texte, c'est que Maurice Imbert, dans le travail qu'il fait depuis pas mal de temps autour de Fénéon, a permis d'identifier un pseudonyme tout à fait passionnant, qui est Frédéric Moreau, et qui serait un pseudonyme utilisé par Fénéon dans une revue qui s'appelle la Revue des journaux et des livres. Il a sans doute raison, même si moi j'ai le sentiment que ce Frédéric Moreau est un omnibus, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire que c'est une signature qui regroupe beaucoup de gens. Et dans un texte, il y a le premier attentat, il est question du premier attentat, c'est-à-dire la première fois que la propagande par le fait va vraiment parler, qui est un attentat qui avait été commis par un dénommé Gallo à la Bourse du Travail. Et Frédéric Moreau, est-il Fénéon ici, condamne l'acte de cet énergumène, etc., etc. Donc c'est tout à fait probable qu'il le condamne, l'acte de cet énergumène. Il n'est en tout cas pas partisan à ce moment-là de la propagande par le fait. N'empêche que quelques années plus tard, ça va changer, puisque on le sait par le journal de Signac. Signac rapporte une conversation avec Fénéon, et donc Paul Signac écrit « Félix fait remarquer à Thévenot que les attentats anarchistes ont fait beaucoup plus pour la propagande que les 20 ans de brochures de Reclus ou de Kropotkine. Il montre la logique des divers attentats qui attaquent avec Gallo la bourse, avec Ravachol la magistrature et l'armée, avec Vaillant les députés, avec Henri les électeurs, avec Caserio le représentant du pouvoir. C'est l'attentat d'Henri, s'adressant aux électeurs, peut-être plus coupable que les élus, puisque ceux-ci sont forcés de faire ce métier de député, qui lui semble le plus anarchiste. » La terreur noire, ainsi que l'a intitulé Salmon pour un livre qu'il avait fait sur le sujet, fait vraiment trembler tout le monde, quoi, à ce moment-là. On est dans un truc qui est un peu paranoïde en France, hein. Les gens ont vraiment peur, en fait, de ces attentats, même si il y a très peu de victimes, en fait.
Philippe Pelletier, l'a-t-il posé, cette bombe, ou non, Félix Fénéon?
Lui, il n'a jamais admis qu'il avait posé la bombe. Certains le pensent, d'autres disent que non, il ne l'a pas posé. Ce qui est très étrange, c'est qu'on voit une espèce de grande silhouette mince dans le jardin du Luxembourg, fumant cigarette sur cigarette. C'est un homme déguisé en femme. Certaines personnes ont dit que c'était une robe de sa mère qu'il portait. Le poseur de bombes et qui va poser la bombe ensuite au café Follo en face du Sénat, et puis qui disparaît. Mais lui n'a jamais accepté de dire qu'il avait posé la bombe.
Une bombe très délicate, puisqu'elle était dissimulée dans un pot de fleurs, sur la fenêtre du restaurant Follo, et qui effectivement a fait des dégâts matériels considérables, et des dégâts humains qui ne le sont pas, si ce n'est que Laurent Taillade, poète anarcho-symboliste, perdra un œil dans cet attentat. Personne ne saura jamais si Fénéon a fait quoi que ce soit, bien évidemment. Parce qu'après, quand on regarde les faits, il y a deux choses. Déjà, il y a quelque chose qui semble tout à fait étonnant, c'est que, et c'est simple en fait de le voir en regardant un plan, c'est qu'au moment où Fénéon pose la bombe, s'il pose la bombe sous la fenêtre, il voit son ami Laurent Taillade qui est derrière, et c'est son ami. Moi, j'ai du mal à croire à ça. Et après, il y a tellement d'autres possibilités. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement retrouvé quelques documents qui nous indiquent qu'un certain nombre d'attentats ont été en fait organisés par l'Okhrana, qui étaient les services secrets du tsar, pour effectivement cimenter l'alliance franco-russe et surtout le fait que la France se débarrasse, pour les rendre au tsar, se débarrasse des nihilistes qui avaient trouvé refuge à Paris à ce moment-là et qui vivaient plutôt en toute tranquillité. Et donc Pierre Ratchowski, qui était le représentant français de l'Okhrana à Paris, qui est aussi connu pour autre chose, c'est d'être l'auteur des protocoles des sages de Sion, parce que tant qu'à faire, hein, autant tout faire, quoi, c'est-à-dire attentat anarchiste, antisémitisme, etc., etc., voilà, menait une politique de déstabilisation aussi. Voilà. Et on se pose d'ailleurs des questions sur pas mal d'attentats. Dans quelle mesure certains attentats n'ont pas été téléguidés par le fameux Pierre Ratchowski. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Et vraiment, Fénéon en poseur de bombes, non. Par contre, la police y croyait vraiment.
On vous a vu causer avec des anarchistes derrière un réverbère. Pouvez-vous me dire, monsieur le président, où ça se trouve derrière un réverbère?
Il prend la tangente. Il va construire toute sa plaidoirie
en démontant simplement l'accusation, c'est-à-dire qu'il ne va pas se défendre en réalité. Il va simplement tourner du côté de l'absurde tous les arguments qui sont contre lui. On a retrouvé du mercure, oui mais le mercure, ben, ça sert à faire des thermomètres. Donc finalement tout le monde a du mercure à la maison. Enfin voilà, donc il va perdre ses interlocuteurs et ses accusateurs dans leurs propres mots.
Alors, il fréquente tous les anarchistes, il va aider les revues à vivre quand Zodaxa, par exemple, est obligé de partir en Angleterre, de fuir en Angleterre. C'est lui qui va animer la revue pendant que Zodaxa ne sera plus en France.
L'en dehors.
Oui, l'en dehors. Et puis à côté de ça, il est ami, il protège, il soutient, il nourrit. Il habite chez ses parents à ce moment-là, et chez ses parents, en fait, c'est une sorte de repère anarchiste. Les parents, d'ailleurs, sont plutôt aussi assez favorables à cet idéal. Et il y a des anarchistes du monde entier qui passent, qui s'appellent Kampfmeyer, qui s'appellent surtout un de ses grands amis, Cohen, et qui le protège, qui l'aide financièrement, etc., etc. Et effectivement, par exemple, on va retrouver dans son bureau des capsules de mercure, qui sont très utiles, effectivement, pour faire une bombe, et qui sont très probablement, d'ailleurs, les capsules de mercure de Émile Henry. Et effectivement, il les garde, parce qu'il garde ces choses-là, voilà. Donc on va trouver des choses comme ça, il est vraiment très lié au mouvement anar, il est vraiment très proche des propagandistes par le fait, il soutient la propagande par le fait, on le sait, mais c'est pas pour ça que ça fait de lui un propagandiste par le fait, ce qui est une autre chose, quoi. Le passage à l'acte est quand même une sacrée affaire, quand même. Hein.
Félix Fénéon, l'homme qui s'y lance. Qu'est-ce qu'on entend ?
On peut entendre plusieurs choses, donc c'est une expression d'Alfred Jarry. L'homme qui s'y lance, c'est Fénéon après son procès, le procès des 30 en 1894. Et Fénéon, après cet épisode, selon Jarry, va décider de se taire. Donc l'homme qui s'y lance peut être aussi interprété d'une autre façon comme l'homme qui se lance là. C'est-à-dire celui qui va en effet commencer une nouvelle vie après ce procès qui le marque profondément, qui marque une rupture. Et il va se lancer à cette époque, surtout, dans un travail de rédacteur en chef à la Revue Blanche, une revue très importante pour l'époque, une sorte de creuset artistique, littéraire et politique. La Revue Blanche est aussi une revue anarchiste, où Fénéon va se sentir très à l'aise et va faire venir beaucoup de jeunes artistes, de talents encore inconnus, et continuer à dérouler son fil, ce lien entre sa pensée, la pensée sociale et un art nouveau.
En 1893-1894 sont votées les lois scélérates pour lutter contre les actions anarchistes et sauvegarder la cause de l'ordre et des libertés publiques. À la provocation directe, déjà interdite, s'ajoute l'apologie, en d'autres termes la propagande. Elle porte un coup sévère à l'effervescence des revues qu'affectionne Félix Fénéon. Une autre vie se dessine, le Japon, non, ce sera le numéro 27 de la galerie Bernheim Jeune.
Je pense que les Bernheim ont très bien compris pourquoi ils savent très bien ce qu'ils font quand ils demandent à Fénéon de venir travailler pour eux. Bon, il est vrai que sa présence au ministère de la guerre, ça faisait vraiment désordre après les attentats, mais les Bernheim savent que avec Fénéon et son odeur de soufre et son image d'anarchiste, ils ont en quelque sorte une prise de guerre. Fénéon est à la pointe de la modernité, est à la pointe des mouvements d'avant-garde, il a un œil absolument infaillible. Et il va, en étant chez Bernheim, donner aux artistes un autre moyen de vivre, enfin un moyen de vivre. Il veut leur donner la reconnaissance par les écrits. Et puis finalement, là, il y a un autre moyen de donner la reconnaissance aux artistes, c'est de les faire vivre. Et par exemple, une des premières expositions que Fénéon organise chez Bernheim, c'est une rétrospective Paul Signac de 34 tableaux et 40 aquarelles, avec un très joli catalogue, une préface de Paul Adam. Signac est absolument ravi, et pourtant Dieu sait qu'il est quand même circonspect et sarcastique au début, puisqu'il y a une lettre à sa femme Berthe au moment où Fénéon est engagé par la galerie Bernheim, où il écrit « Voilà notre ami Félix engagé chez Cacahuète Bernheim, voyons ce qu'il fera de ça ». Donc on sent quand même une petite pointe de sarcasme, mordant comme toujours chez Signac. Et ensuite, il fera la même chose avec les Fauves, avec Matisse, avec Derain, avec Van Dongen. Et on voit bien à quel point Fénéon a très bien saisi l'occasion de faire connaître les artistes qu'il aime.
Alors, ce qui est très étrange, c'est que probablement Fénéon, il a vécu dans des appartements. On n'a aucune trace, on n'a presque pas de description de ça, mais où il y avait un espèce d'empilement absolument incroyable. Quoi, parce que il faut voir que quand même, c'est un monsieur qui a eu 450 objets africains, plus probablement parce qu'il en a vendu à un moment donné, il en a racheté, etc., etc. Mais il a plus de 700 tableaux dans sa collection. Et encore, quand on dit 700 tableaux, on est certainement dans un chiffre inférieur à ce qu'il avait. Je pense qu'il était plutôt près de 1000 tableaux. Dans l'appartement parisien, comment vous faites tenir ça? Je veux dire, vous faites plus du décor, vous faites de l'entassement. Donc moi je sais pas comment il vivait. Alors il y a une lettre assez drôle à sa femme où il dit la femme de Fénéon, Fanny, est en vacances dans le Midi, et il lui écrit en lui disant la femme de ménage a cousu un nouveau rideau pour séparer le salon avec donc les tissus africains qu'on avait choisis. C'est du plus bel effet. Mais c'est tout ce qu'on a comme description de son appartement. Il avait donc quand même un souci décoratif. C'est assez. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui pense il est proche de Matisse. Qu'est-ce que disait Matisse sur la peinture? La peinture, ça doit être comme un bon fauteuil. Ça doit être relaxant. Et je pense qu'il était proche de cette idée-là. Hein? Il regardait un beau tableau, regardait un très bel objet. C'est se soigner. Ça doit être curatif. Ça doit vous relaxer, ça doit vous emmener ailleurs, ça doit vous faire oublier les soucis du jour.
Le temps d'harmonie, le temps des amours décorsetés, des amours libres, c'est le temps de Fénéon ?
Ah bah oui, c'est Fénéon. Donne-moi de tes nouvelles et dis-moi si ton con divin est toujours à sa place entre ton doux ventre et ton cul adoré. Je t'embrasse sur le recto et le verso de ta page érotique, sur l'avers et le revers de ta médaille à l'effigie de Sappho, sur le côté face et le côté pile de ta pièce au millésime 69. Très jolie lettre, d'ailleurs.
Noura.
Donc, qui était une danseuse, et il a effectivement une vie sentimentale et sexuelle, qui est très très libre, et absolument consentie et partagée avec sa femme, avec parfois d'ailleurs des aventures où ils sont plus que deux, etc., etc., oui.
Ils ne sont plus que deux.
Ils sont plus que deux. Et avec aussi, comment dire, une attitude un peu de voyeur aussi de la part de Fénéon, qui prend beaucoup beaucoup de plaisir à voir son épouse avec une de ses maîtresses du moment, qui est donc sa maîtresse mais qui est aussi l'amante de sa femme.
On est toujours un peu coincé par les convenances, n'est-ce pas? Et je pense qu'au fond de son âme, Fénéon n'était vraiment pas coincé. Ce qui le rend un peu différent des autres, c'est cette liberté qui lui vient sans doute de ses convictions anarchistes, que chaque être a sa valeur propre, que chacun a le droit et doit avoir le droit de se développer tout à fait individuellement à sa plénitude.
À Félix Fénéon, Apollinaire dédie ce poème, l'ermite. Un ermite déchaud près d'un crâne blanchi cria « Je vous maudis, martyrs et détresses !»
Trop de tentations malgré moi me caressent. Tentations de lune et de logomachie.
Les humains savent tant de jeux, l'amour, l'amour. L'amour, jeu des nombrils ou jeu de la grande oie.
L'amour, L-A-M-O-U-R-R-E.
Oui, l'amour, jeu du nombre illusoire des doigts. Seigneur, faites Seigneur qu'un jour je m'énamoure.
Comment vous expliquez-vous ce jeu de cache-cache auquel semble avoir joué Félix Fénéon?
Dans sa vie personnelle?
Et dans son travail, puisqu'on a du mal parfois à pouvoir repérer quels sont ses textes.
Oui, ce souci de la discrétion et de la disparition qui est presque impossible à décoder aujourd'hui. Ce besoin de disparaître, de s'effacer, de faire place, peut-être une grande modestie au fond. Face au talent des artistes, il est un écrivain, mais il est surtout, il doit penser peut-être qu'il n'est pas au niveau de ces artistes, qu'il n'est qu'un passeur.
Peut-être que c'est aussi le goût de l'ubiquité ou le fait de penser que tout ne peut être sur la scène et que aussi pour les artistes se jouent et les auteurs des espaces plus clos, des espaces plus secrets.
C'est certain, il a une connaissance intime des artistes, il sait à quel point leur vie peut être compliquée et c'est peut-être aussi une façon de rendre hommage à cette duplicité. Il y a un mystère, c'est certain. C'est l'inverse de la transparence, c'est l'inverse de tout ce qui peut être définitif aussi. Il y a une forme de relativité presque nietzschéenne, d'absence de vérité absolue. On est dans le monde, en effet, de l'ambiguïté, de la discrétion. C'est probablement ce qui doit être le plus difficile à appréhender de Fénéon aujourd'hui, où nos valeurs sont à l'opposé. Même si Fénéon demeure extrêmement moderne par bien des aspects, dans son goût du progrès et de l'avant-garde, mais il y a là quelque chose, en effet, d'assez difficile à appréhender.
Dans les archives de la police, on peut peut-être retrouver, non, des traces de Félix Fénéon ?
Alors, on en trouve beaucoup, en fait. On en trouve beaucoup, mais pas au nom de Fénéon. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dossiers sur des anarchistes littéraires, avec un renvoi systématique vers un dossier Fénéon, mais qui, lui, demeure aujourd'hui absolument introuvable. Donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà, le dossier a disparu. En fait, pour sauver un certain nombre de dossiers à l'arrivée des Allemands, une péniche aurait été affrétée, dans laquelle pas mal de dossiers auraient été mis pour être transportés, personne ne sait où, et cette péniche a coulé. Voilà. Il semblerait que l'histoire de la péniche ne soit une invention, on n'en sait rien du tout. Et le dossier Fénéon reste le grand mystère, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Et voilà, on a quelques extraits comme ça, voilà, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et moi j'aimerais bien le voir, en fait, ce dossier-là.
Fénéon est quelqu'un qui a décidé de se faire oublier. À la fin de sa vie, il a demandé expressément aux gens de ne pas le citer, de ne pas s'intéresser à lui. Il a d'ailleurs dispersé toutes ses collections, il a dispersé toute sa bibliothèque. Il n'y a pas d'archives Fénéon. C'est un monsieur donc qui a souhaité vraiment disparaître du champ intellectuel français. Et néanmoins, c'est un des critiques probablement les plus importants de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui a existé en France.
Donc là, on voit bien qu'on a affaire à un personnage singulier, unique, intriguant. Et c'est le monde de la magie, c'est ce qu'on attend, c'est ce monde de révélation qui n'est toujours pas fini. D'ailleurs, le mystère de Fénéon reste encore en partie assez important.
Avec Isabelle Kahn, conservateur en chef des peintures au musée d'Orsay, Philippe Pelletier, responsable de l'unité Océanie-Insulinde au musée du Quai Branly, Charlotte Hellmann, archive Signac, Philippe Auriol, auteur, éditeur, historien, et Joanne Halperin, pionnière dans la découverte des œuvres de Félix Fénéon et chercheuse. Prise de son Thomas Robin, Philippe Mercher. Mixage Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Félix Fénéon, l'arpenteur des arts, un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Berissi.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Suzanne Saint-Cast. Tout de suite, à 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.